Working Class Heroic Fantasy, chapitre 12. Le réveil. Précédemment, suite au combat dans la fabrique Adabra, la compagnie a à nouveau fui. Cette fois-ci dans une camionnette conduite par Jazion, l'ouvrière naine qui les a rejoints. Elle les conduit dans sa banlieue, mais témoigne d'une rancœur profonde envers le syndicalisme. La soirée s'acheva dans une relative sérénité. L'abcès avait en quelque sorte été crevé. Même s'il était évident que tout le ressentiment de Jazion n'allait pas s'évaporer en une minute, elle semblait l'avoir mis de côté et eut une conversation courtoise avec la compagnie. Amélise lui expliqua la situation. Depuis la venue de Barne chez la FNT jusqu'à leurs petits exploits qui les avaient menés à elle. Ils la mirent également au courant de la légende de l'épée des cerfs et de leur plan pour la récupérer. À la surprise de Barne, elle ne montra pas le moindre signe d'intérêt pour l'objet en question. Il se rappela bien vite que les nains prenaient grand soin de snober tout ce qui avait trait à la magie, et en particulier à celle des elfes. Le fait que Jazion fût une employée de la fabrique Adabra n'y changeait d'ailleurs rien. Comme beaucoup de travailleurs, ses convictions profondes s'effaçaient devant le simple besoin de manger et d'avoir un toit au-dessus de la tête. La naine qui avait d'abord beaucoup parlé ne dit plus rien lorsque le récit s'acheva. Il était tard. Et il lui fallut visiblement du temps pour digérer toutes ces informations, sans parler du fait qu'elle hébergeait désormais 4 prix de justice chez elle. Elle leur signifia malgré tout qu'ils pouvaient rester là, au moins pour la nuit. Son appartement, bien que salutaire, s'avéra rapidement notamment moins confortable que la maison de Zarfolk. Il ne comportait qu'une pièce d'à peine 20 mètres carrés. Évidemment, Jazion avait un tout petit lit. Carmalière, quant à Yel, avait l'honneur d'utiliser le canapé. Les autres durent dormir à même le sol, à peine rembourré par quelques couvertures. La magicienne dormait déjà lorsque Jazion éteignit la lumière. Amélise, épuisée elle aussi, sombra rapidement dans un profond sommeil. Barne, de son côté, fixait le plafond sur lequel se dessinaient des raies formées par la lumière d'un réverbère extérieur, filtré par les stores de la fenêtre.
« Barne !» murmura Pod qui était allongé à côté de lui. « Tu dors ?»«
Non. »«
Moi non plus. »«
Tu penses à Mia ?»«
Ouais, j'espère qu'elle va bien. »
Avec toutes les péripéties de la journée, ils avaient à peine eu le temps de penser à la perte de leur camarade elfe. « Elle doit simplement être en garde à vue, » dit Barne en se voulant rassurant. « Ce n'est pas bien marrant, mais elle ne doit pas être en danger. Je m'inquiéterais plus pour Zarfolk. » Pod ne répondit pas. Barne ne s'était pas attendu à ce qu'ils partagent ce sentiment. Eux qui étaient 6 le matin même avaient perdu un tiers de leur groupe. C'était un coup dur.
« Il faut qu'on fasse quelque chose pour Mia !»
murmura Pod. Ce fut Barne qui resta silencieux cette fois. Il aurait voulu compatir, mais en vérité, il n'avait pas la moindre idée de ce qui était envisageable de faire pour venir en aide à Mia.
« Je dis pas ça pour faire le chevalier blanc, hein !»
ajouta Pod comme pour se justifier.
« Je suis pas amoureux, hein, ni rien, mais on peut pas la laisser tomber. »«
Je sais, Pod, je sais. »
Après quelques instants où tous deux restèrent plongés dans leurs pensées, Barne entendit la respiration de Pod se faire plus régulière. Il dormait. Barne, lui, n'arrivait pas à trouver le sommeil, et pas seulement à cause de son épaule, encore douloureuse. Il était passé très près de la mort à plusieurs reprises, et c'était une expérience nouvelle pour lui. Une expérience dont il se serait bien passé. Il en avait bavé. Il avait reçu une balle. Lui, le petit employé de bureau. Lui, dont la plus grande aventure jusqu'ici avait été son mariage avec une femme d'une autre espèce que la sienne. Être confronté ainsi à sa propre mortalité, à la fragilité de son existence, cela lui avait suffisamment retourné les tripes pour lui coller une insomnie qui était partie pour durer. Cela en valait-il la peine? À chaque pas, à chaque étape de son aventure, il avait continué en se disant qu'il était déjà allé trop loin pour s'arrêter. Oui, mais s'il avait été tué à la fabrique, ou s'il devait l'être le lendemain, son esprit était engourdi par de telles questions. Étrangement, plus il se posait ces questions, plus les risques étaient grands, et plus il lui semblait que la réponse était évidente. Il fallait qu'il continue. C'était comme si devenir soudainement conscient de la réalité et de la gravité des enjeux, la victoire ou la mort, lui avait donné une sorte de courage, d'instinct viscéral. Abandonner maintenant serait comme abandonner tout espoir d'une vie meilleure. Il repensa à Carmalière, aussi. Carmalière qui avait manqué de se faire cribler de balles pour le protéger, lui. Aurait-il imaginé le magicien capable d'un tel geste? Sûrement pas. Il s'en voulait à présent d'avoir été si méprisant à son égard. Il ne s'était pas attendu à se sentir si mal en voyant son camarade affaibli et impuissante. Malgré ses désaccords, il avait toujours vu Kermalière comme un roc auquel s'accrocher en cas de coup dur. Pour finir, ce fut l'image de Clormax qui lui vint à l'esprit. Le souvenir semblait vague, flou. Était-ce réellement arrivé? Oui. Essayait-il de se convaincre? Il avait envoyé son patron, son petit despote personnel, au tapis, d'un coup de poing comme jamais il n'en avait asséné. Sur le moment, il avait surtout ressenti la douleur physique dans son bras blessé, hurlante, insupportable. À présent, avec le recul, il ressentait une sorte de plaisir sadique, une joie un peu honteuse au souvenir de ce geste qu'il avait si longtemps fantasmé, pendant les longues heures passées au bureau, lorsqu'il tentait d'ignorer le harcèlement de Clormax. Et bim, pensa-t-il, en pleine face. Si la lumière avait été allumée, les autres auraient vu le large sourire qui traversait son visage. Lorsqu'il fut éveillé au petit matin par le bruit de la télévision, Barnes eut la surprise de constater qu'il avait malgré tout réussi à dormir une bonne partie de la nuit. Après cette nuit mouvementée, disait la voix du présentateur de télévision, le ministre de l'Intérieur a déclaré que toutes les mesures allaient être prises pour garantir le maintien de l'ordre et le retour au calme dans les plus brefs délais. Barnes se redressa d'un coup sec et sentit une douleur lancinante lui traverser le bras et le dos, conséquence à la fois de sa blessure de la veille et de la dureté du sol sur lequel il avait dormi. « Qu'est-ce qui se passe ? » demanda-t-il en se passant la main sur la colonne vertébrale d'un geste qui lui donna l'impression d'avoir 80 ans. Pod et Kermalière étaient assis sur le canapé, faisaient face au petit poste de télévision au look légèrement désuet. Amélise et Jasion étaient absentes. Un bruit d'écoulement d'eau étouffée indiquait que l'une d'entre elles était sans doute occupée à prendre une douche. « Nos petits exploits commencent à faire du bruit, » répondit Kermalière qui affichait un sourire sur un visage reposé et serein.
« Il y a eu des manifs hier soir !»
s'exclama Pod, qui avait l'air tout excité.
« Un peu partout, spontanément !»«
Des manifs? Mais pourquoi ?»« Pour nous et pour elle !» Barnes jeta un œil au poste de télévision. On y voyait une foule éclairée à la lueur des réverbères défiler dans les rues de Sorbourg. Des slogans étaient scandés, mais le son était masqué par les commentaires du présentateur. Cependant, Barnes pouvait lire les inscriptions sur les pancartes. « Justice pour Milia !» Tous unis avec la FNT, résistance, ou encore police nationale, mise goblinale. Il n'en croyait pas ses yeux. Eux qui étaient voués aux gémonies deux jours plus tôt, traités de terroristes et désignés comme ennemis publics, étaient à présent ovationnés par une foule qui ne les connaissait même pas.
Mais comment, mais pourquoi?
La fuite des images de sécurité de la bibliothèque a fait du bruit, expliqua Kermalière. On a monté l'ensemble de la population contre nous en s'appuyant sur les mensonges des responsables orques. Il faut croire que les gens n'ont pas trop apprécié de s'apercevoir qu'on les avait manipulés.
Et pour couronner le tout, ils ont fait l'erreur de médiatiser l'arrestation de Mia entre-temps,
continua Pod avec un large sourire.
C'était stupide de leur part, parce que ça fait d'elle un symbole d'une volonté d'écrasement illégitime.
Ils ont parlé de Mia? Est-ce qu'on sait si elle va bien? « Sa vie n'est pas en danger, » dit Kermalière en confirmant l'hypothèse que Barnes avait fait à Pod la veille. « Malgré tout le mal que je pense de notre système politique, il faut lui reconnaître cela. Le régime n'assassine pas encore les opposants politiques. En tout cas, pas une fois qu'ils sont interpellés. »«
Vu comment les manifestants ont l'air remontés, » dit Pod, « ils seraient capables d'aller forcer le commissariat pour la libérer. »«
Tout ce tapage juste pour nous ?» s'étonna Barnes incrédule.
« C'était l'étincelle, » fit Pod, réjoui. Celle qui a mis le feu aux poudres.
C'est très bon pour nous, remarqua Kermalière. Mais ça finira par retomber, comme d'habitude. C'est pour cela qu'il faut agir vite, maintenant, tant que nous avons ce soutien populaire. Les Arfolk? Ils n'en ont pas parlé, répondit Kermalière. J'imagine que c'est bon signe. Un nouveau visage apparut sur l'écran. Barnes le reconnut immédiatement comme étant celui du ministre de l'Intérieur, Morgade de Lapadius. C'était, comme une très large majorité de politiciens de la terre des Krilek, un mort-vivant aux yeux vides, la peau décharnée, de rares cheveux sur le crâne et vêtu d'un costume cintré et austère.
« Le refus de Monsieur Soriam Palor d'appeler au calme et son appel à manifester, même sauvagement, est un acte irresponsable, »
dit le ministre d'une voix monocorde.
Il est impensable aujourd'hui que des casseurs utilisent une affaire anecdotique comme prétexte pour laisser libre cours à leur violence.
Monsieur le ministre, répondit le journaliste, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous demandent de comprendre la colère de ces manifestants? On a entendu beaucoup de choses, par exemple que les événements d'hier soir cristallisaient une certaine crispation de longue date au sein de la société de Grillac.
Rien ne justifie les violences actuelles, répondit le ministre en balayant l'argument d'un geste de la main. Il est évident que nous devrons prendre en compte certaines revendications, mais en réunissant les partenaires sociaux et en instaurant un dialogue constructif, pas en brisant des abribus.
« Il y a des casseurs ?» demanda Barnes. « Il y en a toujours, » répondit Carmalière. « Note qu'ils brisent en général bien moins de choses que les puissants que nous combattons. » Barnes se dit en son fort intérieur que cela n'était pas une justification. Mais il aurait eu du mal à prendre le parti du ministre de l'Intérieur en ce moment-là. Peu de gens, de manière générale, faisaient confiance à leurs politiciens en terre de Grillec. Car même si officiellement ces politiciens étaient censés représenter leurs citoyens, dans les faits, ils appartenaient tous au même milieu social et étaient dans leur grande majorité des êtres humains de genre masculin. La politique avait cessé d'être l'affaire de tous pour devenir l'objet de carrière. Carrière si longue que la plupart des politiciens finissaient par se transformer en morts vivants. Ils abandonnaient la dignité d'une mort humaine pour pouvoir continuer, année après année, à arpenter les assemblées, maintenues dans leur demi-vie maudite par le pouvoir et l'argent, de plus en plus déconnectés de la réalité, déjà morts et pourtant toujours là. Ceux qui vivaient réellement, les autres, ne pouvaient que subir les législations scélérates d'une classe politique qui n'était plus concernée depuis longtemps par des besoins aussi élémentaires que manger ou se protéger du froid. Monsieur le ministre, l'arrestation hier de la militante syndicaliste Milia Puili a fait grand bruit et a sans doute beaucoup joué dans le déclenchement de ces manifestations. A-t-on plus d'informations sur l'enquête en cours ? Est-ce que l'audition des membres du personnel de la fabrique Adabra de Malgron ont apporté de nouveaux éléments ?
Bien entendu, l'enquête étant toujours en cours, je ne peux rien dire de précis. Mais effectivement, nous sommes sur les traces des 4 présumés terroristes. J'ai bon espoir que nous puissions les interpeller sous peu, avant qu'ils ne fassent d'autres victimes.
Merci, monsieur le ministre. On rappelle que l'attaque de la fabrique Adabra, qui a eu lieu à peine une semaine après celle de la Bibliothèque nationale des Prud'Orc, a fait 5 blessés. Monsieur Zad Fulmiark, PDG du conglomérat Orca Universa, Monsieur Kur Klormax, directeur d'une antenne locale de l'entreprise Boutin Corp, et Monsieur Yors Ton, directeur de la sécurité de la bourse de Grillec, ont tous les 3 été blessés légèrement. 2 agents de sécurité ont pour leur part été blessés grièvement et sont encore en observation à l'hôpital. Leur pronostic vital est engagé. Sauf que bien entendu, marmonna Carmalière, eux ne seront pas nommés. On ne va quand même pas s'intéresser aux sous-fifres.
Vous n'allez pas les plaindre tout de même, dit Barnes en haussant un sourcil.
Moi, non, fit Carmelière, d'un ton soudain intéressé. Mais cela m'étonne que toi, Barnes, tu sembles si détendu en apprenant que 2 personnes sont entre la vie et la mort à cause de nous.
J'ai vraiment cru que j'allais y rester, hier, dit Barnes en baissant la tête. Ces types, ils étaient prêts à m'exécuter sommairement, au sol, comme ça. Une balle dans la tête, et c'est tout. Plus rien.
Il releva la tête vers Carmalière, et il fut soulagé de constater que celui-ci ne souriait pas, mais avait une expression de compassion.
En parlant de ça, continua Barnes, merci. Pour hier. Merci de m'avoir sauvé la vie. Mince, ça a l'air tellement con quand je dis ça. Mais merci. J'ai vu ce qui vous en avait coûté. Vous auriez pu vous faire tuer si vous n'aviez pas réussi à maintenir le sort si longtemps. Alors, merci. Plus jamais je ne douterai de vous.
Si tu veux me remercier, Barnes, je t'en prie, continue à douter de moi. J'en ai besoin. Nous allons au-delà de périls bien plus grands dans notre quête, et tu ne peux pas laisser l'émotion troubler ton jugement. Nous sommes une compagnie. Lorsque quelqu'un est en difficulté et que nous sommes en capacité de l'aider, alors nous le faisons. Ça ne se discute pas. Tu aurais fait la même chose, même si tu penses sans doute le contraire, et que tu te sens coupable de cela. Par contre, ne fais pas de moi ton sauveur, par pitié. Continue à t'indigner quand mes opinions te semblent inacceptables. Dis-moi lorsque tu penses qu'un plan est suicidaire. Sauve-moi quand tu peux, et je ferai de même. Barnes acquiesça d'un mouvement de tête.
il n'était pas très à l'aise avec les grandes déclarations. Il savait aussi que Carmalière était un spécialiste des grandes déclarations. Alors, il préféra lui laisser le dernier mot. « Maintenant que ceci est dit, » dit soudain Carmalière en souriant, « passons aux choses sérieuses. J'ai une excellente nouvelle. Je sais où se trouve l'épée des cerfs. » Ce fut le moment qu'Amélise choisit pour sortir de la salle de bain, une serviette de toilette nouée sur la tête. Elle trouva un barn et un pod, bouche bée, devant Carmalière qui semblait ravi de son petit effet. « J'ai loupé quelque chose ?» demanda-t-elle avec incrédulité. Je m'apprêtais à expliquer à nos camarades comment j'ai découvert la localisation de l'épée des cerfs.
Tu as découvert ça, toi, ici, comme ça, depuis ton canapé.
Je crois que je peux me vanter de pouvoir répondre oui. Pire, je l'ai découvert en regardant la télé.
Un instant, s'écria Pod.
Parfaitement.
Bon, bon, dit Barn. Assez d'effets d'annonce. On ne va pas y passer la nuit. Dites-nous, Carmalière.
Celui-ci se pencha en avant et posa les coudes sur ses genoux, dans la position du conspirateur qui s'apprête à exposer un plan secret. « Lorsque nous nous sommes retrouvés piégés à la fabrique, dit-il, nous faisions face à trois assaillants. Le premier, Barn et moi, l'avons immédiatement reconnu, puisqu'il est le directeur local de notre boîte, Glormax, un être raffiné, comme vous avez pu le voir, et qui a fini par se mordre les doigts d'être une crapule, grâce à notre ami Jasion. » Barn se garda de demander où était la naine, pressé d'entendre la suite. Le second, le plus imposant des trois, était un orque. Nous avons appris son identité grâce au susnommé Glormax, Zad Fulmiark, grand PDG d'Orca Universa, la holding qui englobe, entre autres, la fabrique Adabra. Deuxième fortune mondiale, le bonhomme. J'avoue que je connaissais son nom, mais pas son visage. Un sacré honneur pour nous, hein, pas vrai? Fallait-il vraiment que nous l'ayons agacé pour qu'il se déplace en personne?
Ça ne colle pas, remarqua Barn. Qu'est-ce qu'un PDG irait faire dans une usine de seconde zone? Je suis persuadé qu'il ne quitte jamais ses luxueux bureaux, d'habitude.
Tout juste, mais il était là pour une affaire, et pas n'importe laquelle. L'épée des cerfs. Rappelez-vous, Glormax était désolé que Fulmiark refusait de confier l'épée à Boutincorp. Il y a fort à parier que l'épée venait tout juste d'être déplacée sous la supervision du grand Manitou en personne. On dirait bien que je ne suis pas le seul à y attacher une telle importance à cet objet.
Tout cela me semble plausible, dit Amélise. Mais il y a tout de même un problème. Glormax a effectivement dit que l'épée n'irait pas chez Boutincorp.
Carmalière sourit. Malgré l'amitié qu'il lui accordait désormais, Barn ne pouvait s'empêcher d'être exaspéré lorsque la magicienne exultait en jouant à ses petites énigmes, au lieu d'en venir simplement au fait.
Ce qui nous amène au troisième personnage, fit Carmalière. Il n'a pas dit un mot et son identité m'était inconnue, jusqu'à ce qu'elle nous soit révélée grâce à l'abnégation de notre présentateur télé.
Il fit un signe en direction du poste de télévision qui était toujours allumé, même si Pod avait réglé le son en sourdine.
Monsieur Yorston, directeur de la sécurité de la bourse de Grilac.
C'est ainsi que le journaliste l'a présenté.
La bourse de Grilac? La forteresse? Murmura Amélise.
Oui, confirma Carmalière, et c'est en fait l'endroit le plus logique. La forteresse de la bourse des Grilac est sans aucun doute un des lieux les plus sécurisés au monde. Fulmiark y a probablement un bureau, et c'est là-bas que se trouvent les centres de données des principales banques ainsi que la plupart des réserves en or brut de la terre des Grilac.
Je croyais que les talons or avaient été abandonnés.
En grande partie, oui, mais il en reste encore de l'or. Vois-tu, même les financiers qui nous chantent les louanges de l'argent dette savent que le système peut mécaniquement s'écrouler à tout instant. Aussi préfèrent-ils assurer leurs arrières.
En tout cas, dit Barn, si l'épée est cachée là-bas, on peut lui dire adieu, non?
La tâche sera ardue, reconnut Carmalière. Mais difficile ne veut pas dire impossible.
Non, Barn, ne me regarde pas comme ça, je suis sérieux.
S'attaquer à la forteresse? Dit Amélise. Même moi, je trouve que c'est une idée folle. Le bâtiment est immense, gardé par toutes sortes de créatures maléfiques. Lorsqu'il s'agit de déchaîner leurs instincts autoritaires et sadiques, les orques n'ont bizarrement plus aucune réticence à faire alliance avec des forces magiques, pas les plus nobles en général. Je ne parle même pas des sorts de protection mis en place, ou de l'arsenal technologique de surveillance et de l'armée de garde, armée au sens propre, c'est-à-dire militarisée. C'est à peu près à tout cela que je faisais référence quand je disais « difficile ».
« Il est dingue !» dit Barn en regardant Amélise. « Complètement dingue !»«
Pas forcément !» dit Pod.
Emilia, rappela Barne, on la laisse sur le carreau? Mince, Pod, hier soir tu t'inquiétais pour elle, et maintenant tu voudrais tout plaquer pour aller jouer aux révolutionnaires?
Hier soir, répondit Pod, tu m'as dit justement que je ne devais pas m'inquiéter. Je tiens à Emilia, mais je ne pense pas que nous puissions l'aider directement à l'heure actuelle. Admettons que nous la faisions évader. À quoi cela nous avancerait? Ça aggraverait son cas et le nôtre.
Oui, intervint Carmelière, et la fuite des vidéos de la bibliothèque joue pour nous. Regardez déjà le soutien populaire qui s'élève. Si nous récupérons l'épée en prime...
Moi je dis qu'on peut le faire, s'écria Pod. Ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on ne peut pas faire vaciller les grands. Je sais de quoi je parle.
Je suis d'accord sur ce point, Pod, mais l'ardeur ne fait pas tout, temporisa Amélise. Piquer des documents dans une bibliothèque, s'introduire dans une petite usine de quartier, c'est une chose. Encore que nous avons déjà failli y rester plusieurs fois. Là, on parle d'une forteresse, au sens propre, puisque c'est littéralement comme cela que le bâtiment s'appelle.
Au-delà de ça, fit remarquer Barne, il faudrait déjà réussir à s'y rendre. Si je ne m'abuse, la bourse des Grillecs se trouve à Dordelane, soit à plus de 2000 km de Sorbourg. Et si nous devenons les personnes les plus recherchées de la terre de Grillec, et c'est bien parti pour, ça risque de compliquer le voyage.
Il y a une compagnie low cost qui propose une ligne directe entre Sorbourg et Dordelane. Amélise, Pod et Barne eurent tous la même réaction. Ils firent de grands yeux et se décrochèrent les mâchoires sans arriver à émettre le moindre son. Ils avaient l'air de trois poissons rouges face à une Carmelière toujours aussi souriant.
« Non, là, vous nous faites marcher, hein, » finit par articuler Barne.
« Carmelière, franchement, rassurez-moi, vous déconnez. »
« Je ne déconne pas du tout, mon cher Barne. Nous ne pouvons emprunter la route. Les grands axes risquent d'être étroitement observés. Et ne parlons pas de la vidéosurveillance à chaque péage d'autoroute, qui est déjà active et exploitable. Passer par des axes secondaires nous prendrait des jours et nous n'avons pas de temps à perdre.
Parce qu'un aéroport, ça ne risque pas de surveiller, peut-être. Au premier contrôle d'identité, nous serons repérés.
La différence majeure, c'est qu'il s'agit d'un unique contrôle dont nous sommes déjà informés. Une seule faille dont nous pouvons préparer l'exploitation à l'avance, là où les contrôles routiers seront imprévisibles et potentiellement multiples. On peut aussi compter sur l'effet de surprise. Nous serons là où nous attendrons le moins.
Je persiste à dire que vous êtes dingue.
Les plans les plus dingues sont parfois les...
Carmelière cessa de parler et tous tournèrent la tête vers la fenêtre. Un bruit de foin lointain s'était peu à peu accentué, une sorte de ronronnement grave et régulier. Après s'être lancé des regards alertés, ils se précipitèrent à la fenêtre. À l'horizon, la silhouette d'un hélicoptère se détachait clairement sur le ciel bleu, à peine parsemé de petits moutons blancs. L'engin s'approchait du quartier de Benir.
« Ils savent que nous sommes ici, » murmura Barne. « Ils ont identifié Jasion comme la personne qui nous a aidés, et maintenant, ils viennent nous chercher. »«
Non, c'est de l'intimidation, » objecta Carmelière. « S'ils avaient identifié Jasion, ils seraient venus nous chercher en fourgon. » Directement, et surtout discrètement. Ils ont dû nous suivre à la trace avec les caméras de surveillance autour des routes que nous avons empruntées. Ils doivent savoir que nous sommes à Bundir, et ils vont surveiller le quartier jusqu'à ce que nous en sortions. La porte de l'appartement claqua, et Jasion fit son apparition.
« Ils arrivent !» s'écria-t-elle.
« Ne vous inquiétez pas, » dit Carmania. « Pour l'instant, je ne crois pas qu'ils sachent que nous nous cachons chez vous. »«
Qu'ils sachent ou qu'ils sachent pas » dit-elle d'un ton narquois. « Pourront jamais approcher d'ici. Les flics sont pas les bienvenus à Bundir. Et l'hélico, ici, c'est une déclaration de guerre. Il y a déjà plein de types dans la rue, bien chauffés par le bazar d'hier soir. Ça va péter ce soir. Et quand ça pète ici, ça fait pas semblant. On ferait mieux de rester planqué. J'ai acheté des provisions. »
Elle leva deux sacs en plastique, tenus à bout de bras, avec le logo d'une chaîne de supermarché imprimé dessus. Barne ne put s'empêcher de sourire. La naine semblait à peine impressionnée par la situation. Elle prenait ça comme une petite contrariété sans importance. C'était cette habitude et cette décontraction face à la détresse qui faisait sa plus grande force.
« Vous êtes prévenante, Jasion, » dit Carmelière, « mais je pense que nous n'allons pas vous mettre en danger plus longtemps. Nous devons quitter Sorbourg au plus vite, et profiter de l'éventuel désordre de ce soir me semble la meilleure option. Plus nous attendrons, plus la police resserrera son étau autour de votre appartement. »
« Parce que vous croyez que vous allez partir sans moi ?» s'écria la naine. « Je sais pas où vous allez, mais j'y vais aussi. »«
Jasion, » fit Amélise, « nous partons pour une quête très dangereuse, et nous ne pouvons pas vous demander de... »«
Non, c'est moi qui demande. Vous avez récupéré l'épée de machin chose, hein? Eh ben, je veux en être.
C'est étrange, dit Barnes. Lorsque nous en avons parlé hier, vous sembliez peu intéressé par la magie.
Rien à foutre de la magie, dit la naine devant une Amélise scandalisée. Si vous luttez pour le peuple, il vous faut du peuple avec vous. Pas question que les grands et les magicaux récoltent tous les honneurs. Je suis ouvrière, je suis naine et je suis la mieux placée pour lutter contre les fumiers capitalistes.
Barnes et Amélise étaient ébahis. Pod semblait en phase avec Jasion et Kermalière avait un air définitivement amusé.
Eh bien, dit-il, j'avoue que je ne m'attendais pas à ça. Que peut-on répondre à un tel argumentaire? Je serais bien mal avisé de refuser que quelqu'un de motivé se joigne à la compagnie. Soyez la bienvenue parmi nous, Jasion. Nous voici à nouveau cinq.
La naine était rayonnante, et Barnes songea que c'était la première fois qu'il la voyait sourire. Pod aussi semblait aux anges, heureux de ne plus être l'unique petit être de la compagnie. Jasion ne remplacerait jamais Milia aux yeux d'Amélise, mais Kermalière avait raison. Ils avaient une nouvelle camarade de route, et cela n'était pas négligeable si l'on considérait l'ampleur de la tâche qui les attendait. Dehors, l'hélicoptère était maintenant largement audible et tournait patiemment au-dessus du quartier. Ils s'éloignèrent de la fenêtre et s'assirent à nouveau autour de la table à manger. Jasion, ayant manqué le début de la conversation, ils lui expliquèrent ce que Kermalière avait déduit sur l'emplacement de l'épée et sur le plan qu'il s'était mis en tête de suivre. Elle haussa un sourcil lorsqu'on lui exposa l'idée de prendre un avion pour se rendre à Dordelan, mais ne protesta pas.
La question immédiate, dit Kermalière, c'est comment nous procurer de faux passeports et nous rendre à l'aéroport sans encombre.
Pour les passeports, je dois pouvoir trouver quelqu'un, dit Jasion. L'aéroport est pas bien loin, même à pied. Forcément, ils les construisent toujours à côté de banlieue Crenos. Faudrait pas troubler la tranquillité des bourges.
5 minutes dans la compagnie et vous voilà déjà indispensable, dit Kermalière d'un air radieux.
Même avec l'aide de Jasion, remarqua Barnes, je ne vois pas par quel miracle nous pourrions réussir à prendre l'avion sans nous faire prendre, à nous introduire dans la forteresse, à localiser l'épée, à nous en emparer et à ressortir sans encombre. Bon sang, Kermalière, il s'agit de la forteresse la plus sécurisée du monde et nous ne sommes que 5.
Non, fit Kermalière en indiquant du doigt l'écran de la télévision où les images des manifestations de la veille tournaient en boucle. Nous sommes des millions.